Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
La soupe de la mamée, c'est un conte de Jean-Pierre Chabrol que j'ai transposé dans les Hautes-Alpes. Ta soupe est bonne, maman, mais elle ne vaut toujours pas la soupe de la mamée. Combien de fois ai-je entendu cette histoire ? C'est mon ami de lycée, Jean-Pierre, qui me la racontait. Jean-Pierre habitait dans plein cœur d'Embrun. Son père était instituteur. Sa mère tenait une mercerie. Sa grand-mère, elle vivait dans une ferme à Crévoux, une petite ferme au toit de Lauze. Et je vais vous raconter cette histoire telle que me la racontait Jean-Pierre. « Ta soupe, elle est bonne aujourd'hui, maman, mais elle ne vaut toujours pas la soupe de la mamée. Ça vient des légumes, moi. J'achète mes légumes sur le marché à Embrun. Par contre, elle, la grand-mère, elle les fait pousser dans son jardin. Qu'à cela ne tienne, dit mon père, nous descendrons des légumes du jardin de la grand-mère. Et le dimanche suivant, nous avons rangé dans notre petite quatrelle juste avant d'en repartir, dans un grand panier d'osier, les pommes de terre, les carottes, les oignons, les navets, les haricots, un chou et une branche de céleri. Le lendemain, le lundi, ma mère s'est affairée dans sa cuisine dans la préparation de la soupe. Oh, elle était bonne, la soupe, ça sentait bon, la montagne. Arrive le moment du cérémonial, du verdict. Mon père fait longuement chuinter chaque cuillerée dans sa soupe. Et il dit « elle est succulente aujourd'hui, mais je crois que ça vaut toujours pas la soupe de la mamée. Papa a raison, elle vaut toujours pas la soupe de la mamée. » Alors ma mère a goûté, regoûté la soupe, réfléchi. Ça vient de l'eau. Ici, au robinet, on a une saleté municipale coupée de javel. Qu'à cela ne tienne, dit mon père. Dimanche prochain, nous descendrons de Crévoux une bonbonne d'eau de source. Et le dimanche suivant, nous avons rangé dans notre petite quatrelle, d'abord dans le panier, les pommes de terre, les carottes, les oignons, les navets, les haricots, un chou, une branche de céleri et une grande bonbonne d'eau de source de Crévoux. Le lendemain, ma mère s'est appliquée encore à la préparation de la soupe. Et ce jour-là, c'est moi qui devais me prononcer en premier lors du cérémonial. Alors, j'ai dit « Maman, qu'est-ce qu'elle est bonne, ta soupe, aujourd'hui ? » Mais je crois qu'elle ne vaut toujours pas la soupe de la mamée. « Le petit a raison, la mère. Cette soupe ne vaut toujours pas la soupe de la mamée. » Alors, ma mère, elle a réfléchi un bon moment. Elle a goûté encore la soupe et elle a dit « ça vient de la cuisson. Moi, je cuis la soupe sur une gazinière. La mamée, elle la cuit lentement. Elle la fait mijoter dans la cheminée. Alors, la soupe doit avoir quelques saveurs du feu de bois. Qu'à cela ne tienne, dit mon père. Nous allons rétablir le fonctionnement de la cheminée de notre appartement à Embrun et nous redescendrons dimanche prochain, du bois de Crévoux. Pendant la semaine, comme je suis le plus petit, mon père m'a dit « Monte sur cette échelle, enlève la planche de contreplaqué. » C'est ce que j'ai fait. Et tout noir de suie, tout ce temps, j'ai crié « Papa, regarde, on voit le ciel bleu. » Et le dimanche suivant, nous avons coupé, fendu du bois de chêne, nous avons ramassé du bois menu de mélèze et nous avons tout rangé dans la quatrelle. le panier rempli de légumes, la grande bonbonne d'eau de source et tout le bois de mélèze, de chêne et de frêne. Et le lendemain, ma mère s'est affairée, cette fois-ci, dans la cheminée de notre petit appartement. Elle y a passé longtemps. Alors cette fois-ci, la soupe était à tomber à genoux. Mon père a dit, elle est vraiment très bonne, comme jamais. Mais je crois quand même qu'elle ne vaut toujours pas la soupe de la mamie. Alors j'ai levé mon nez de mon assiette et j'ai dit, oui, je crois que papa a raison, elle ne vaut toujours pas la soupe de la mamie. Alors ma mère est rentrée dans une colère terrible. Bon, ça y est, ça demande le tour de main d'une paysanne, je ne l'aurai jamais. Point final. Mon père, lui, a dit, qu'à cela ne tienne. Dimanche prochain, nous descendrons aussi la mamée de la montagne. Et ça n'a pas été facile, hein, de convaincre la mamée de descendre en ville, à Embrun. Elle restait toujours là-haut dans sa montagne. Alors, aller faire la soupe chez sa belle-fille. Mais l'appartement de sa belle-fille était aussi l'appartement de son fils et de son petit-fils. Alors, elle a fini par accepter. C'est religieusement qu'elle a préparé la soupe dans la cheminée de notre petit appartement. Et elle a tenu à la servir elle-même. Alors que tout le monde faisait un grand silence, elle a commencé à la goûter et elle a dit « Ça vaut pas ma soupe. » Nous avions tous le nez dans notre assiette et on a fait oui de la tête. Tout ça, ça supporte pas le voyage. « Et alors ?» dit mon père. « Et alors ? Pour manger de la bonne, de la vraie soupe, il faut aller la manger là-haut, chez moi, dans la montagne. »
L'avare. Hans Kröf était si économe que cette vertu, chez lui, frisait l'avarice. Il n'avait point de domestique. Sa femme portait des habits élimés et ses enfants manquaient souvent du nécessaire. Un jour que son fils aîné lui en fait le reproche, Hans Kröf lui dit « Comment, petit, as-tu faim ?» « Oh oui, père, » répond l'enfant, « car je n'ai dans le ventre qu'un peu de soupe clairette. Aimerais-tu, voyons, manger du bon pain frais, juste sorti du four ?» Le visage de l'enfant s'éclaire, « Oh oui, père, eh bien, allons en acheter. » Et les voici tous deux à la boulangerie. Devant eux s'étalent des brioches moelleuses, des miches dorées dont la seule vue excite la gourmandise. « Ton pain est-il bon, boulanger ?» demande Hans Kröf. « Délicieux, » assure le boulanger. « Sa mie est presque aussi fondante que du beurre. »«
Presque aussi fondante que du beurre, dis-tu ? Eh bien, dans ce cas, il vaut mieux que j'achète du beurre, car un bon père de famille que je suis, je veux, pour mes enfants, le meilleur aliment qui soit. Merci de ton conseil. » Il tourne les talons et entraîne son fils avec lui chez le crémier. Et devant eux s'étalent des pots de crème onctueuses, des fromages veloutés et des mottes de beurre dont la seule vue excite la gourmandise.
« Crémier, ton beurre est-il bon ?» demande Hans Kröf. Succulent, assure le crémier. Sa pâte est presque aussi fine et légère que de l'huile.
Presque aussi légère, dis-tu ? Alors, dans ce cas, il vaut mieux que j'aille acheter de l'huile, parce que, un bon père que je suis, je veux le meilleur des aliments pour ma famille.
Merci de ton conseil. Et, tournant les talons, il se retrouve chez l'épicier. devant son fils et lui, s'étale des flacons et des barils d'huile ambrée dont la seule vue excite la gourmandise. « Ton huile est-elle bonne, épicier ?» demande Hans Kruff. « Exquise !» répond l'épicier. « Vois cette limpidité. Elle est presque aussi pure que de l'eau de source. »«
Presque aussi pure, dis-tu ? Alors, mieux vaut que je me procure directement de l'eau de source, car en bon père que je suis, je veux le meilleur des aliments pour ma famille. »
Merci de ton conseil.
Ayant acheté ni pain, ni beurre, ni huile, Hans Kruff s'en retourne chez lui, fort satisfait. Et ce soir-là, sa famille dîne avec un verre d'eau.
Philosophie de nouilles. C'est l'histoire d'un jeune homme timide et maladroit. Il est surtout embarrassé avec les jeunes filles, il ne sait trop comment s'y prendre pour les courtiser. Mais ce jour-là, il a ce qu'on appelle maintenant un bon plan, un rendez-vous grâce à un copain. Le rendez-vous est pour le samedi suivant. Mais il reste anxieux, très inquiet. Alors il va voir son père, avide de conseils. Son père lui dit « Écoute, tu lui parleras de trois choses. D'abord, tu lui parleras d'amour, mais de façon détournée, de manière à ce qu'elle comprenne que tu as de l'esprit. Ensuite, tu l'interrogeras sur sa famille, pour qu'elle comprenne que tes intentions sont sérieuses. Et enfin, tu lui parleras philosophie pour qu'elle comprenne que tu n'es pas n'importe qui. » Pendant toute la semaine, le jeune homme rabâche, ressasse les conseils du père. « Ah, je dois lui parler d'amour de façon détournée, lui demander des nouvelles de sa famille, lui parler philosophie. » Et il rabâche. Arrive le samedi matin. Il rencontre la jeune femme. Il est là tout anxieux. Il réfléchit par quoi commencer. Ah oui, l'amour de façon détournée. Mademoiselle, est-ce que vous aimez les nouilles ?
Non, je n'aime pas vraiment les nouilles.
Ça commence bien, se dit-il. Bon, passons à la famille. Mademoiselle, est-ce que vous avez un frère ?
Non,
je n'ai pas de frère. Ah, c'est de pire en pire. Bon, essayons maintenant la philosophie. Maintenant, si vous aviez un frère, pensez-vous qu'il pourrait aimer les nouilles ? Alors la jeune fille a ri. Elle a tellement ri qu'elle s'est éprise de lui, qu'elle est tombée dans ses bras. Et d'après ce que l'on sait aux dernières nouvelles, ces deux-là, ils sont toujours ensemble. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. It's a arte, no more, no more. It cannot wait. I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot.
is short, this is our fate. I'm yours. Do 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 do. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
La femme phoque. C'est un conte inuit. Dans ce pays du Nord, là-haut, dans le vrai Nord, les jours de ciel blanc, les jours de neige blanche se succèdent. Et les petits points noirs que l'on peut voir au loin sont des hommes, ou des ours, ou des chiens. Là-haut, rien ne pousse. Le vent souffle avec violence. Là-haut, il fait si froid que les paroles gèlent en l'air à la sortie des lèvres de celui qui parle. Et c'est là, sur ce sol, que vivait un homme, Natatok. Bon chasseur, il ne manquait jamais sa cible. C'était un homme solitaire et les filles du village ne l'intéressaient pas vraiment. Un soir, alors qu'il marche vers la petite baie où il tire son bateau pour le mettre à l'abri sur la plage, il entend des rires de femmes derrière un rocher, tout près de la berge. Il s'approche. Son instinct lui dicte de ne faire aucun bruit. Il risque un coup d'œil par-dessus le rocher et voit un groupe de très belles femmes aux longs cheveux en train de danser sur la petite bande de sable tout près de l'eau. Natatok reste là à les regarder, ébloui par tant de beauté. Il n'en croit pas ses yeux, il ne sait que penser. Et il se rappelle alors cette histoire qui se raconte lors des rassemblements. Cette histoire qui dit qu'autrefois, les phoques étaient des humains et que c'est pour cette raison que leurs yeux ont des regards humains, des regards sages et aimants. Et il entend rire ces femmes superbes qui semblent faites du lait de la lune avec de petites taches d'argent qui brillent sur leur peau, pareilles à celles des saumons au printemps. Alors, presque sans savoir ce qu'il fait, Natatok bondit sur le rocher et dérobe l'une des peaux de phoque qui se trouve là. Puis il la fourre dans sa parka et se cache. Il risque un œil par-dessus le rocher. Les femmes revêtent leur peau de phoque et une par une, elles se glissent dans la mer avec de petits cris de joie. Toutes, sauf une, la plus grande, qui cherche partout sa peau de phoque. En vain. L'homme alors quitte l'abri du rocher et lance « Femme, Sois mon épouse, je te rendrai heureuse. Je ne peux être une épouse car j'appartiens au monde d'en dessous. » Et Natatok insiste. « Sois mon épouse, répète-t-il, et dans cet été, je te rendrai ta peau de phoque. Et là, tu pourras partir ou rester, comme tu voudras. » La jeune femme phoque le regarde un moment de ses grands yeux doux. « Je viens avec toi, et dans cet été, il en sera décidé. » Ils ont eu un enfant, un beau garçon qu'ils ont appelé Oruk. En hiver, sa mère lui raconte des histoires sur les créatures qui vivent sous la mer, tandis qu'avec son long couteau, son père découpe un ours ou un loup en petits morceaux. Parfois, tard dans la nuit, quand toute la famille dort, elle se glisse dehors sur la pointe des pieds et rejoint le rivage. Elle y reste des heures, songeant au sien, en espérant apercevoir leur tête monter et descendre dans l'eau, à la clarté de la lune. Mais le temps passant, sa peau commence à se dessécher, puis à se craqueler. Ses cheveux commencent à tomber. Elle perd de ses rondeurs, et puis elle se met à boiter. Chaque jour, son regard devient de plus en plus terne, et sa vue s'obscurcit. Et Oruk, le petit garçon, grandit. Un soir, il est réveillé par des cris et se dresse sur son lit de peau de bête. C'est son père qui gronde sa mère. Et il entend des pleurs. C'est sa mère. « Tu as caché ma peau de phoque il y a 7 longues années. Et maintenant, le 8e hiver arrive. » « Je veux que tu me rendes ce dont je suis faite. »« Et toi, femme, si je te le rends, tu me quitteras. »« Je ne sais ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que je dois avoir ce à quoi j'appartiens. »« Tu me laisseras, alors, sans épouse, et l'enfant sera sans mère. Tu es mauvaise. » Sur ces mots, Natatok rejette brutalement la portière de cuir et disparaît dans la nuit. Oruk se rendort, mais il est bientôt réveillé par le vent, un vent étrange qui semble l'appeler par son nom. Il quitte son lit si vite qu'il met sa parka à l'envers. Il entend toujours son nom. Il se précipite dans la nuit semée d'étoiles. Oruk. Il court jusqu'à la falaise qui surplombe la mer, et là, loin sur la mer agitée, il voit un énorme phoque argenté, avec une grosse tête, des moustaches qui tombent sur sa poitrine et des yeux d'un jaune profond. Le garçon dégringole la falaise et bute sur une pierre. Non, sur un ballot qui a roulé d'une faille dans le rocher. Oruk déroule le ballot et le secoue. C'est la peau de phoque de sa mère. Il la porte à son visage et respire son odeur. Et pendant qu'il fait cela, l'âme de sa mère le traverse comme un vent d'été soudain. Là-bas, le vieux phoque d'argent s'enfonce lentement sous la surface. Le petit garçon escalade la falaise et rentre chez lui en courant. Il se laisse tomber sur le sol devant sa mère. Sans un mot, elle prend la peau et l'enfile. « Maman, maman, ne me laisse pas !» Alors, elle prend l'enfant, le met sous son bras et mi-courant, mi-trébuchant, elle se précipite vers la mer. « Maman, ne me laisse pas !» supplie le petit garçon. Elle prend le visage de son fils entre ses mains et lui insuffle sa douce respiration dans les poumons. Une fois, deux fois, trois fois. Puis, en le tenant comme un précieux ballot sous son bras, elle plonge sous la mer. Et la femme phoque et son enfant respirent parfaitement sous l'eau. Ils nagent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre des phoques. Là, le grand phoque qui avait appelé Ohoru depuis la mer dans la nuit étreint l'enfant et l'appelle son petit-fils. « Comment vont les choses là-haut, ma fille ?» demande le majestueux phoque d'argent. La femme phoque détourne les yeux. « J'ai blessé un humain, père, un homme qui m'aimait, mais je ne peux retourner auprès de lui. » parce que j'y serai prisonnière. Et le garçon, mon petit-fils, il doit partir, père. Il ne peut rester, car son temps parmi nous n'est pas encore venu. Ainsi, 7 jours et 7 nuits passent, au cours desquels la femme retrouve son lustre, sa belle couleur sombre. Elle a de nouveau une bonne vue, et redevient bien en chair. Et vient le temps de ramener l'enfant chez les humains. Cette nuit-là, son vieux grand-père phoque et sa mère magnifique le prennent entre eux et nagent vers le monde du dessus. Là, ils déposent doucement Ohoruk sur les rochers du rivage, dans la clarté de la lune. Et sa mère promet « Je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché, le petit bois pour allumer le feu, mon oulu, mon couteau, mes sculptures de phoque et d'otari en pierre, et je soufflerai dans tes poumons pour que tu chantes. » Puis elle glisse en silence sous l'eau, et parce que son temps n'est pas encore venu, Ohoruk reste. Le temps passe. Il grandit et devient grand chanteur. Souvent, on le voit dans les brumes grises du petit matin. Après avoir attaché son kayak, il s'agenouille sur un rocher et semble parler à un phoque qui vient souvent près du rivage. Après lui avoir parlé, l'esprit apaisé, il chante. Il chante de sa belle voix grave ses plus beaux chants qui disent sa nostalgie de la mer et la beauté de la terre et du ciel. »